Chapitre 2. Témoignage de Caspar Grattan. Aujourd'hui je suis vivant et demain, dans cette même pièce, il n'y aura plus qu'une masse d'argile sans vie qui n'aura que trop longtemps été ma chair. Si quelqu'un soulève le voile jeté sur cette chose déplaisante, ce ne sera que mu par une curiosité morbide. Certains, je n'en doute pas, voudront aller plus loin et se demanderont qui était-ce. J'apporte ici la seule réponse que je suis capable de donner, Caspar Grattan. Sans doute ce sera bien suffisant. Ce nom a servi à mes modestes besoins pendant plus de 20 années d'une vie dont j'ignore la durée. Bien sûr, ce nom, c'est moi qui me le suis donné. Mais n'en ayant aucun autre, j'en avais bien le droit. Dans ce monde, on doit avoir un nom, cela évite les confusions, même si cela ne permet pas d'établir une identité. Certains, toutefois, sont connus sous un numéro, ce qui semble également une identification bien insuffisante. Un jour, par exemple, je marchais dans une rue d'une ville, loin d'ici, quand je croisais deux hommes en uniforme. Et l'un d'eux, s'arrêtant presque, et regardant mon visage avec curiosité, dit à son compagnon « Cet homme ressemble au numéro 767 ». Quelque chose dans ce numéro me sembla étrangement familier et horrible. Mu par une impulsion incontrôlable, je bondis dans une rue attenante et courus jusqu'à ce que je m'écroule, épuisé, le long d'un chemin de campagne. Je n'ai jamais oublié ce numéro, et il résonne dans ma mémoire, accompagné de paroles obscènes, d'éclats de rire sans joie et du fracas de portes de fer. Alors je dis qu'un nom, même si on se l'est attribué soi-même, est toujours mieux qu'un numéro. Sur le registre du cimetière, j'aurai bientôt les deux. Quel luxe ! À celui qui trouvera cet écrit, je dois témoigner quelques considérations. Ce n'est pas l'histoire de ma vie, je ne peux pas l'écrire, car je ne la connais pas. Il ne s'agit que d'un recueil de souvenirs épars et qui ne sont apparemment pas reliés entre eux. Certains sont aussi distincts et ordonnés que des perles sur une ficelle, d'autres sont lointains et étranges, ressemblant à des rêves pourpres, séparés par des intervalles vides et ténébreux, des feux de sorcières, rouges et immobiles, au milieu du désert. Debout sur les berges de l'éternité, je me retourne pour regarder une dernière fois le chemin qui m'a conduit là. Il y a 20 ans de traces clairement visibles, des empreintes sanglantes. Elles ont suivi un chemin de pauvreté et de douleur, tortueux et dangereux, comme les traces qu'aurait laissé un homme titubant sous le poids d'un lourd fardeau. Lointain, sans amis, lent et mélancolique. Ah ! Comme le poète a su prophétiser mon existence ! Comme c'est admirable, terrible et admirable ! Au-delà, avant le commencement de cette via dolorosa, cette épopée de souffrance et de péché, je ne vois plus rien clairement, tout est dans le brouillard. Je sais que ce chemin ne couvre que 20 ans, et pourtant je suis un vieil homme. On ne se souvient pas de sa naissance, il faut nous la raconter. Mais pour moi, ce fut différent. Je vins à la vie avec toutes mes facultés. D'une existence antérieure, je ne sais rien de plus que les autres, car tout sont de vagues impressions qui sont peut-être des souvenirs ou peut-être des rêves. Je sais seulement que ma première impression consciente fut celle d'un homme adulte de corps et d'esprit. Une conscience que j'acceptais sans en être surpris et sans me poser de questions. Je me trouvais simplement en train de marcher dans la forêt, à demi nu, les pieds douloureux, indiciblement affamés et épuisés. Trouvant une ferme, je m'en approchai et demandai à manger. celui qui me donna de la nourriture me demanda mon nom. Je l'ignorais, et pourtant je savais que chacun a un nom. Très embarrassé, je battis en retraite, et à la nuit tombée, je m'étendis dans la forêt et je m'endormis. Le lendemain, je parvins à une grande ville que je préfère ne pas nommer. Je ne vais pas raconter les incidents qui ont émaillé une vie qui arrive maintenant à son terme. Une vie d'errance, toujours et partout hantée par le sentiment que le crime était la punition du mal et la terreur la punition du crime. Voyons si je puis en tirer un récit. Il semble que j'ai vécu près d'une grande ville. J'étais un planteur prospère, marié à une femme que j'aimais, mais à qui je ne faisais pas confiance. Nous avions, enfin je crois, un enfant, un jeune homme brillant et prometteur. Il reste toujours pour moi une silhouette vague, jamais clairement définie, et de toute façon, souvent en dehors du tableau. Un soir fatal, il me vint à l'idée de tester la fidélité de ma femme, d'une manière vulgaire et triviale, qui sera familière à tous ceux qui sont habitués à lire des journaux ou des romans. Je partis pour la ville, disant à ma femme que je serais absent jusqu'à l'après-midi du lendemain. Mais je revins juste avant l'aube, et me rendis à l'arrière de la maison, me proposant d'entrer par une porte que j'avais trafiquée afin qu'elle ait l'air verrouillée, alors qu'elle pouvait en réalité toujours être ouverte. Tandis que je m'en approchais, je l'entendis s'ouvrir, puis se fermer doucement, et j'aperçus un homme qui s'esquivait discrètement dans les ténèbres. Avec des envies de meurtre, je me lançai à sa poursuite, mais il avait disparu avant que j'aie pu ne serait-ce que l'identifier. Parfois, je ne suis même pas certain que ce fût un être humain. Fou de rage et de jalousie, rendu sauvage et aveugle par toutes les passions instinctives de l'homme insulté dans sa virilité, j'entrai dans la maison et montai 4 à 4 les marches jusqu'à la porte de la chambre de ma femme. Elle était fermée, mais j'avais trafiqué cette serrure-là aussi. Je pus donc facilement entrer, et malgré les ténèbres, je me retrouvai bientôt au pied du lit. Tâtonnant, je me rendis compte que celui-ci, bien que défait, était inoccupé. « Elle est en bas, » pensais-je. Terrifiée par mon arrivée, elle s'est échappée à la faveur de l'obscurité dans le hall d'entrée. Afin de la chercher, je tournai les talons pour quitter la pièce, mais je pris la mauvaise direction, la bonne, devrais-je dire. Mon pied la heurta, elle se cachait dans un coin de la chambre. En un instant, mes mains furent sur sa gorge. Étouffant son cri, mes genoux maintenant son corps qui se débattait, là, dans l'obscurité, sans un mot d'accusation ou de reproche, je l'étranglai jusqu'à ce qu'elle meure. Là s'arrête mon rêve. Je l'ai relaté au passé, mais le présent serait plus adapté, car encore et encore cette sombre tragédie se rejoue dans mon esprit. Encore et encore je dresse mes plans, je souffre de voir mes soupçons confirmés, et je répare mes torts. Puis tout s'évanouit, et la pluie se remet à battre contre les vitres crasseuses, où la neige tombe sur mes maigres vêtements. Les rues sordides où je vis ma vie de pauvreté retentissent du fracas des roues des voitures. S'il y a parfois du soleil, je ne m'en souviens pas. S'il y a des oiseaux, il ne chante pas. Il y a un autre rêve, une autre vision dans la nuit. Je me tiens au milieu des ombres sur une route au clair de lune. Je sens une autre présence, mais je ne peux déterminer ce qu'elle est au juste. Parmi les ombres d'une grande habitation, je perçois un vêtement blanc. Puis la silhouette d'une femme m'apparaît sur la route. « Ma femme, que que j'ai assassiné. La mort est sur son visage et elle porte des marques sur la gorge. Ses yeux sont fixés sur les miens avec une gravité infinie qui n'est pas du reproche, ni de la haine, ni une menace. Ce n'est rien de moins terrible que la simple reconnaissance. Face à cette horrible apparition, je m'enfuis, pris d'une terreur qui est encore en moi lorsque j'écris. Je ne parviens plus à former correctement les mots. Regardez, il... Maintenant, j'ai retrouvé mon calme. Mais vraiment, il n'y a plus rien à dire. Tout s'arrête comme cela a commencé, dans les ténèbres et le doute. Oui, j'ai retrouvé le contrôle. Je suis à nouveau le capitaine de mon âme. Mais ce n'est pas un répit, c'est une nouvelle étape de mon expiation. Ma pénitence, constante dans son intensité, est variable dans sa forme. L'une de ses variantes est la tranquillité. Après tout, il ne s'agit que d'une réclusion à perpétuité. En enfer pour toute la vie, voilà un châtiment bien stupide, puisque le condamné peut en fixer lui-même la durée. Aujourd'hui, ma peine arrive à son terme. À chacun, je souhaite la paix que je n'ai pas su trouver.